Donc ce matin, nous allons lire dans Exode 24. Exode 24. Donc nous nous situons à partir du début du chapitre. Et donc là, nous nous situons lors des épisodes où le peuple de Dieu, donc le peuple d'Israël, sort d'Égypte et est en train d'aller vers le pays promis, le Canaan. Donc Exode, le chapitre 24. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne, et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple, en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Ensuite, nous allons nous arrêter là. Ensuite, Moïse, comme il a été ordonné, monte donc sur la montagne, et il y reste 40 jours, 40 nuits pour recevoir de Dieu la loi pour son peuple. Et bon, Dieu avait déjà donné les 10 commandements avant, il avait déjà donné la loi pour son peuple. Il avait sorti d'Égypte et maintenant il ne voulait pas que son peuple soit un peuple dans le chaos, sans ordre, mais qu'il soit un peuple saint, un peuple avec des lois, donc une théocratie. Et avant que donc Moïse et le peuple reçoivent la loi de Dieu, et avant que Moïse monte, il y a donc cet instant. Il y a un instant qui va définir le peuple d'Israël, qui est l'alliance avec Dieu. Et donc Moïse a construit l'autel. Et la moitié du sang du sacrifice, il l'a mis sur l'autel, et l'autre moitié, il l'a, avec l'accord du peuple, répandu sur le peuple. Et ça, c'est le sang de l'Alliance. C'est par ce sang, c'est par ce geste qui lie Dieu et qui lie le peuple d'Israël. Vous comprenez? Un peu comme un contrat, un pacte, un mariage, si vous voulez. Donc les deux sont maintenant consacrés et liés et ne forment qu'un seul. Et donc dans un contrat, dans un pacte, il y a toujours un engagement. C'est quelqu'un qui dit « je vais faire cela et ceci », n'est-ce pas? Le peuple de Dieu, donc le peuple d'Israël, s'est consacré à Dieu. Donc il a dit « nous obéirons et nous ferons tout ce que tu as dit, deux fois même ». Et Dieu s'engage, comme il avait promis, à les bénir s'ils sont obéissants. Et c'est pas un pacte, c'est pas une alliance qu'on fait comme ça à la légère. Il répandait du sang pour démontrer la... C'est comme si on consacrait sa propre vie, son propre sang. Donc, en d'autres mots, si je brise cette alliance, que mon sang soit répandu comme le sang de cet animal, plus ou moins. Et c'est quelque chose que Dieu... Pourquoi Dieu l'a fait? Pourquoi est-ce qu'une simple parole n'est pas assez? Pourquoi est-ce qu'il a fallu avoir le sang? Déjà, ce n'est pas la première fois que Dieu fait un pacte pareil. L'alliance entre le peuple d'Israël, le peuple et Dieu, est quelque chose qu'on a déjà vu auparavant et que Dieu répète, et qu'il répète tout le temps. Il a commencé avec Abraham, qui lui était fidèle. Et Abraham aussi, il lui dit, coupe tes animaux en deux, un peu la même chose, tu feras des sacrifices, et nous marcherons entre le cadavre de ces animaux pour symboliser notre alliance. Donc Abraham, lui, se consacre à Dieu, et Dieu promet qu'il fera de lui une grande nation et une bénédiction pour la terre entière. Mais nous savons que l'homme est pécheur, l'homme est déchu, et donc il brise son alliance tout le temps, n'est-ce pas? Et on le voit que ce soit dans le désert ou après avec les juges ou pendant le temps des rois, que Israël est toujours dans ce cycle de revient à l'Éternel, il se reconsacre, il tombe et il se reconsacre et ainsi de suite. Mais Dieu continue toujours dans le pardon et il renouvelle toujours son alliance, il améliore toujours son alliance, il n'annule jamais les anciennes alliances, les promesses d'une postérité à Abraham sont toujours restées valides jusqu'à aujourd'hui. Les promesses que Dieu fera du peuple d'Israël une nation sainte et bénie et une bénédiction pour le monde est toujours valable jusqu'à aujourd'hui. Puis il continue avec le roi David. Donc une fois que le peuple était établi, ils avaient le roi, d'après le cœur de Dieu, le roi David. Et c'est avec ce roi-là que Dieu fait une nouvelle alliance, encore une fois, et qu'il confirme, tu es roi, mais de ta postérité viendra un roi plus grand que toi. Et c'est lui qui sauvera les nations, c'est lui que j'ai promis auparavant. Donc voilà. Dieu fait des alliances avec son peuple et son peuple se consacre à chaque fois à lui. Donc il dit, nous sommes le peuple de l'Éternel. Et c'était dès le début, le désir de Dieu, c'est d'avoir, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Une relation, de nouveau comme un mariage. Mais ces alliances étaient toutes, elles durent à jamais. Mais elle montrait vers une alliance future, vers une alliance parfaite, où après la dernière alliance, où après il n'aura plus besoin de faire de nouvelles alliances. Et donc lisons vite fait dans Matthieu 26. Matthieu 26, à partir du verset 26 à 29. C'est avant la crucifixion, un épisode que nous connaissons aussi bien, c'est l'institution de la scène. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc là, Jésus le dit très clairement que son sang, et nous connaissons tous son sacrifice et la croix, c'est un acte que nous faisons, donc la scène, de prendre le pain et le vin, ok, il est symbolique, mais il est réel. Il donne son corps, c'est le pain que nous mangeons, et son sang déversé, c'est le sang que nous buvons, Il n'y a plus de différence entre le peuple dans le désert, où il y a l'autel, il y a le sacrifice, et il y a le sang du sacrifice qui les relie à Dieu, et le sacrifice de Jésus, son corps qu'il a donné sur l'autel, et le sang qui maintenant est sur nous aussi, et qui nous relie à Dieu directement. Et ça, c'est un. Et nous faisons partie de cette alliance par la foi, et non plus simplement par généalogie, mais elle est ouverte pour toute cette alliance. Et c'est par la foi qu'on la reçoit. Et que son sang, donc le sang de Jésus nous couvre. Et le sang de Jésus n'est pas un sang quelconque. Le sang de Jésus est le sang d'un homme. Et le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. Il n'a pas de substance, de monnaie plus qui valent plus que cela. C'est l'essence, c'est la vie de Dieu lui-même qu'il a répandu sur son peuple, qu'il a répandu sur nous aujourd'hui. Et cela, il le répète à chaque fois. C'est par amour. Il n'avait pas besoin de le faire. Il n'avait pas nécessité de le faire. Il voulait le faire par amour. C'est pour ça que c'est un don. Et aujourd'hui, nous vivons donc plus sous l'ancienne alliance, n'est-ce pas? Nous n'avons plus besoin des sacrifices et des rites et tout cela. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Et Dieu nous couvre avec son sang, personnellement avec son sang à lui. Plus celui des taureaux ou des boucs, mais avec son propre sang, il nous a rachetés. Et donc regardons un peu ce que être sous le sang de Jésus, cela signifie. Parce que chacun qui donne sa vie à Dieu, qui se dit « Moi, j'appartiens à l'Éternel », qui s'est consacré comme le peuple dans le désert s'est consacré, spirituellement, il a ce sang sur lui. La première chose, une des premières choses que Jésus a dit ici, c'est le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Et donc le pardon, c'est la première, c'est la grande chose que nous recevons quand nous rencontrons Dieu, quand nous rencontrons Jésus, et que son sang tombe sur nous. C'est le pardon. Israël attendait son Messie. Israël attendait son roi promis. Dès le temps de David, dès le temps des prophètes. Et donc quand Jésus vient, et Jean-Baptiste le voit pour qu'il se fasse baptiser, c'est lui qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau de Dieu, l'animal sacrifié, qui ôte le péché du monde. Avant, nous avions besoin des sacrifices pour couvrir le péché. Donc en fait, quand l'homme pêche, il a brisé la loi, il a brisé le cœur de Dieu. Et maintenant, il a une dette envers Dieu, n'est-ce pas? Et cette dette est sa vie et son sang, puisque maintenant, il n'est plus saint. Il a rompu l'alliance avec Dieu. Il s'est séparé de Dieu. Et pour rétablir cela, il a besoin d'un sang pur, pour rectifier ce qui a été endommagé. Mais personne qui est souillé peut avoir un sang pur. Donc personne ne peut rendre, peut satisfaire cette dette. Et donc ce que Dieu faisait, c'est qu'il disait, « Ok, vous allez me sacrifier tel animal, et son sang vous couvrira pour un temps. » Donc c'est un peu comme une dette, comme une carte de crédit. Vous avez cette dette, vous ne pouvez pas la payer. Mais vous n'avez pas besoin de la payer aujourd'hui. Vous pouvez la payer un jour dans le futur. Mais cette dette, avec le temps, elle ne devient pas plus petite. Avec chaque péché, elle grandit. Et tout ce que nous, on pouvait faire, c'est avec le sang des animaux, la couvrir. Mettre un couvercle dessus et dire, dans un temps futur, Un jour, elle sera payée. Mais pour le moment, elle n'est que couverte. Mais le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu, c'est le sang parfait. Et comme il est homme, c'est le sang qui couvre cette dette. Il ne va pas seulement la couvrir, mais la payer complètement. Donc là, ce n'est plus temporaire. C'est plus « je suis couvert », mais c'est « il a ôté le péché ». C'est comme s'il est effacé. C'est plus il y a une dette et vous avez preuve de paiement. C'est il a effacé la dette en entier qu'il y avait par son sang, par son sacrifice. Et c'est ce qu'il nous a donné quand il s'est sacrifié. Il continue par son sang et perpétuel. C'est un sang vif qui est valable pour toujours. Le pardon des péchés. Et c'est comme ça, avec cette dette effacée, que nous avons de nouveau accès auprès de Dieu. Que l'alliance est restaurée. Que la relation est restaurée. Et qu'il peut maintenant réellement avoir cette union, ce mariage, si vous voulez, sans intermédiaire, sans blocage. Il est écrit que quand Jésus est mort, que le voile dans le temple, qui séparait le sien, qui séparait la présence de Dieu, des hommes, s'est déchiré du haut en bas. Sa présence, elle s'est répandue sur le peuple, sur les hommes. Chacun peut la recevoir et la reçoit aujourd'hui sous le sang de Jésus. Amen. Nous recevons le pardon de Dieu à travers le sang de Jésus. Et comme Anne nous l'a rappelé ce matin, nous aussi nous avons l'obligation de pardonner les uns les autres. Parce que la Sainte Cène n'est pas simplement « ok, je me rappelle », mais aussi « j'accepte ce sacrifice ». Comme le peuple il avait dit, nous acceptons les paroles de l'Alliance, nous acceptons cet engagement et nous le tenons de la même façon. Quand nous prenons la Cène, nous disons « j'accepte les paroles de l'Alliance, des anciennes et de la nouvelle Alliance ». Et je me consacre à les garder. Et même si nous savons que nous le brisons de temps en temps, le sang de Jésus est perpétuel, le sang de Jésus est plus puissant, et il nous garde à jamais, à travers son amour. Mais comme nous sommes consacrés, comme nous sommes engagés à garder l'Alliance, nous sommes aussi engagés à la garder les uns envers les autres. Être saint comme Dieu est saint. Et si lui pardonne, nous nous pardonnons. Nous agissons de même et nous cherchons à faire de même. Donc il n'y a plus d'accusation ou de honte. Cela, c'est un réflexe naturel des fois qu'on a. Mais ça peut être aussi une ruse de l'ennemi pour nous garder éloignés de Dieu. Parce que c'est un mensonge. Il efface la dette. Il efface le péché, il efface aussi la honte. Donc nous sommes libres de l'approcher, comme nous le faisons aujourd'hui. Consécration. Lisons vite fait dans 1 Pierre 2, s'il vous plaît. En Pierre 2, vers la fin de la Bible. Les versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc nous ne sommes pas seulement pardonnés. La dette n'est pas seulement effacée et oubliée. Mais Dieu dit que chacun qui entre dans son alliance et qui est recouvert de son sang, maintenant est un sacerdoce royal, une race élue, une nouvelle nation mise à part, comme le peuple d'Israël qui était mis à part dans le désert, qui était mis à part dans le pays de Canaan, pour être différent des autres, pour montrer Dieu, la loi de Dieu, le cœur de Dieu. Maintenant, l'Église et son sacerdoce royal. Le sacerdoce, donc, le fait d'être prêtre, c'était ceux qui faisaient le sacrifice, qui s'occupaient des choses de Dieu dans le temps d'Israël. C'était les Aaron, les fils d'Aaron, la tribu de Lévi, qui reprenait cela. Et avait tout... sorte de rituel. Et eux-mêmes, ils devaient se sanctifier et se purifier. Donc prendre le sang des sacrifices, se purifier sur l'aube, le pouce et l'orteil. Et c'est eux qui tendaient au tabernacle, au temple, aux louanges et tout cela. Réservé aux Lévites. Mais sous la nouvelle alliance, Dieu appelle chacun, tout le monde, à être sacerdoce royal. Chacun est sacrificateur. Chacun est fils de Dieu, co-héritier de Christ et ambassadeur de Dieu. Et donc peut-être le monde, il nous catégorise différemment. Le monde, il regarde chacun et il regarde son travail. Banque, employé d'entreprise, femme de ménage, professeur, et ainsi de suite. Salaire, classe d'impôt, race, telle couleur de peau, telle religion, n'importe, tel âge. Mais Dieu, d'abord, il te voit comme sacerdoce royal. D'abord comme ambassadeur de Dieu. Et après, tu as ton job. Après, tu as ce que tu fais pour te soutenir. Donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Nous avons notre travail, nos vies, ok, pour nous soutenir, parce qu'il faut vivre. Mais donnons à Dieu ce qui est à Dieu. Et d'abord, nous sommes chrétiens, d'abord nous avons cette obligation-là et cette identité-là. Parce que son identité n'est pas dans ce que tu fais, dans l'argent que tu as, dans quoi que ce soit. C'est d'abord, tu es une personne de Dieu. Et son peuple est appelé à être saint. Comme le peuple l'avait dit, nous ferons ce que le livre de l'Alliance elle dit. Nous aussi, nous avons à être saints. Pas pour avoir plus de pardon, pas pour être plus sauvé, mais pour être sanctifié, pour ressembler plus à Dieu, plus à Jésus, pour être protégé de certaines choses. Donc même les charges, soi-disant, que Dieu impose, les choses les plus difficiles ou les moins agréables, sont pour notre bien, sont par amour, et révèlent la réelle identité de quelqu'un. Parce que le service des Lévites, le service, il n'y a rien plus haut que le service de Dieu. Il n'y a rien de plus haut. Tu peux avoir l'argent que tu veux, tu peux avoir... Les hommes peuvent te reconnaître. Mais le serviteur le plus petit de Dieu est plus important que l'homme en dehors de l'Église le plus grand du monde. Il n'y a rien de plus haut que le service de Dieu. Et ça, c'est différent pour tout le monde. Parce que les dons sont différents, parce que les personnalités sont différentes, parce que les appels sont différents, parce que quand Dieu il t'a façonné, il t'a fait pour comme un outil pour un ouvrage spécifique. Et ça, il n'y a pas de deuxième. Et de remplir cette tâche-là, de remplir cet appel, à travers et sous le sang de Jésus, à travers son esprit, il n'a rien de plus haut. Là où tu es sacerdoce royal. Tu tu portes la présence de Dieu, la parole de Dieu, et surtout l'amour de Dieu comme nous l'avons entendu aujourd'hui. Ça, c'est pas quelque chose de petit, c'est pas on n'est que l'Église, non, c'est il n'y a rien de plus haut que cela, de servir Dieu, de louer Dieu dans tout ce que nous sommes. Et un jour, c'est ce que nous ferons pour toujours, n'est-ce pas? Et nous nous réjouirons à jamais devant l'Éternel. Donc voilà, il nous a sauvés. Il nous a enlevés des ténèbres pour nous ramener dans sa lumière, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Les choses les plus hautes, c'est de louer Dieu, c'est d'être au service de Dieu. Et c'est là que nous, voilà, que nous voyons, que nous reconnaissons qui nous sommes réellement. C'est ça qui nous satisfait, c'est ça qui nous met en harmonie, en relation avec Dieu de nouveau. Amen.
Amen.
Mais ça, nous ne le faisons pas tout seul. Ça, nous devons, nous pouvons le vouloir et travailler, mais ce n'est qu'avec l'Esprit Saint que nous y arrivons. Ouvrons Jean 14 une fois. Jean 14, de 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, donc c'est Jésus qui parle, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissiez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Le sang de Jésus nous pardonne, il nous couvre, il nous protège, il nous garde. Le sang de Jésus nous rend le peuple de Dieu, les sacerdotes royaux, une nation de sacrificateurs. Et le sang de Jésus nous permet d'obtenir le Saint-Esprit de Dieu. On n'a plus le temple où Dieu est séparé, où Dieu est dans un endroit physique. Mais maintenant, son temple, c'est nous qui portons son sang, sa marque. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et son Esprit habite en nous. Et ce que nous faisons, la consécration, le pardon, et ainsi de suite. Que possible par l'Esprit? Certes, on a nos efforts et il y a notre part à faire, mais c'est l'Esprit qui habite en nous et maintenant qui agit en cela. Quand Dieu fit l'homme, il façonna Adam de l'argile, de la terre, de la poussière. Mais il n'était qu'un corps. Il était sans vie. Et c'est que quand il souffla dedans, qu'il mit son esprit dans Adam, qu'il prit vie. Et c'est la même chose avec l'homme. Aujourd'hui, nous, nous pouvons être... C'est l'Esprit Saint seulement qui donne la vraie vie. Sinon, nous ne sommes que des cadavres animés. Nous bougeons, ok, mais il n'y a pas la vraie vie en dedans de nous. L'Esprit est mort. Le corps vit peut-être, mais l'esprit est mort. Et ce n'est que l'Esprit de Dieu qui rend la vie, qui rend la satisfaction, qui rend le pouvoir de faire cette œuvre, d'être sacerdoce royal. Et ce n'est que l'Esprit de Dieu qui nous remplit de son amour, qui est après tout la seule émotion et chose essentielle qui existe. Et tout dérive de cela, parce que Dieu est amour. La foi que nous avons, les opinions que nous avons, l'intelligence, le connaissement, Tout ça n'est que possible et n'est que utile avec l'amour qui vient de l'Esprit Saint. Et c'est lui qui va nous rendre semblables à Dieu, semblables à Christ, qui travaille en nous, qui vend le fruit de l'Esprit. C'est lui qui donne le pouvoir à l'Église de faire ce qu'elle devrait faire, n'est-ce pas ? Avoir un mandat sans avoir le pouvoir de le faire est inutile. Vous restez là les mains liées. Et Dieu a donné le mandat à l'Église d'être ses sacerdoces partout, ses témoins partout, d'être la lumière et la présence de Dieu dans le monde. Et cela n'est que possible avec et par le Saint-Esprit, par la présence de Dieu. Si ce matin nous chantons nos louanges à Dieu, ce ne sont que des chants, mais avec l'Esprit de Dieu, avec la présence de Dieu, c'est une louange différente, n'est-ce pas ? Nous sommes avec Dieu. Parce qu'il habite en nous, il est écrit, et il est à perpétuité avec nous, et il travaille en nous, et il nous change. Et qui dit la puissance, dit aussi les dons de l'Esprit, n'est-ce pas ? Qui est quelque chose assez unique. Cela n'existe que sous la Nouvelle Alliance. Certes, dans le passé, des fois l'Esprit de Dieu tombait sur quelqu'un. Il y avait quelque chose de spécial. Que ce soit une prophétie, que ce soit la force, que ce soit la clairvoyance. Mais cela est pour tous et pour chacun aujourd'hui qui est couvert du sang de Jésus. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Comme nous sommes consacrés à Dieu et que nous sommes son peuple, nous sommes rachetés, nous sommes pardonnés. Nous sommes maintenant des sacerdoces royales. Cherchons aussi l'Esprit Saint. Et non seulement sa présence, qu'il habite en nous et les fruits, mais aussi les dons de l'Esprit. Car ils sont ouverts, comme nous avons lu, à chacun. Et c'est par ces dons aussi que nous pouvons agir dans notre appel, dans notre fonction réelle. Rappelons-nous que l'Alliance, oui, c'est nous personnellement qui disons oui à Dieu, qui entrons en cette alliance avec Dieu. Mais il y a aussi l'aspect commun. C'était le peuple qui a fait l'action, l'alliance avec Dieu. Ce n'était pas seulement Moïse ou une ou l'autre personne. C'était le peuple comme un seul, comme un gros. Et l'Église aussi est une nation de plusieurs personnes. Ce n'est pas seulement toi individuellement, mais c'est nous, comme Église, comme groupe. Et c'est aussi pour cela qu'il nous donne les dons, n'est-ce pas ? Pour l'utilité commune. Si nous louons, nous avons les musiciens, les chanteurs qui chantent bien, mais est-ce qu'ils chantent que pour eux ? Ou est-ce que c'est tout le monde qui est béni et qui peut se joindre à eux ? Quand quelqu'un donne une parole, une prophétie, est-ce qu'il prophétie pour lui-même ? Est-ce qu'il parle pour lui-même ou il parle à l'Église ? Il parle aux autres ? Celui qui a le don de guérison, est-ce qu'il le fait que pour lui-même ou est-ce qu'il guérit les autres ? Et les miracles, et ainsi de suite. Et Dieu sera avec nous jusqu'à la fin. Église, nous avons chanté « Prépare-toi ». Église, réjouis-toi, car Jésus revient bientôt, n'est-ce pas? Et je trouve que c'est important, surtout dans les temps mauvais dans lesquels nous sommes, et qui iront de pire en pire, et nous connaissons où cela finira. Il est important de rester consacré à Dieu, pour être protégé, pour être sous le sang de Dieu, mais aussi pour être effectif jusqu'à la fin, et pour accomplir le but de l'Église jusqu'à la fin et jusqu'à son retour. Amen.
Amen.